On va continuer à faire des selfies dans le studio, qu'est-ce que t'en penses?
Eh bien, merci énormément. Vive la France libre.
Une révolution humaine.
L'invité de 11h et quelques. Bonjour à toutes et tous, bonjour à chacun, chacune. Vous écoutez Radio BLV 93.6, c'est l'invité de 11h et quelques. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Bastien Marion, fabricant d'odeurs, fabricant de goûts, cultivateur de goûts. Bonjour Bastien.
Bonjour, bonjour.
Alors effectivement, mais on continue notre promenade puisque c'est la semaine qui précède De ferme en ferme et on continue notre promenade en découverte des producteurs et productrices du terroir. Et Bastien, toi tu es installé sur Bourg-les-Valences, ça s'appelle Les Arômes de Genasse,
voilà.
Et ce sont des plantes aromatiques et du safran.
Ouais, tout à fait. Donc installé à Bourg-les-Valences, à Bourg-les-Valences, on fait des plantes aromatiques et également du safran, ouais.
Voilà, c'est j'aime bien ces clins d'œil comme ça parce que c'est toujours là où on ne les attend pas qui sont les meilleurs. Alors je vous confirme, en plus c'est un site absolument magnifique, on en parlera. Avant d'aller découvrir justement le site et l'exploitation. Cultiver des plantes aromatiques, ça vient quand on fait comme Obélix, on tombe dedans quand on est petit ou est-ce que ça vient petit à petit ou est-ce que comment c'est venu cette passion pour les plantes aromatiques?
Ben comme tu l'as dit là, c'est devenu une passion et en fait ça est devenu par la force des choses. Enfin, ce qui se passe c'est que moi je ne suis pas du tout issu du milieu agricole. En fait, j'étais magasinier chariste, préparateur de commandes. Mmh. Donc, tout simplement, pas issu pour travailler les plantes ou quoi que ce soit. Et je travaillais en intérim et tout simplement, j'ai eu ma fin de mission. Et il y a eu des... Alors, en fait, toute l'histoire a commencé vraiment avec le safran. Donc, en fait, c'est grâce à ma belle-mère, donc Sylviane, avec qui on est allé faire une formation sur... Enfin, pas une formation, une espèce de stage sur le safran. Et donc, de fil en aiguille, ben, elle a décidé d'en acheter un petit peu. Et qui s'y est collé, ben, c'est moi. Donc, du coup, le safran, en soi, ça a vraiment commencé comme ça. Donc, maintenant, ça fait une dizaine d'années que je fais du safran. Et par-dessus, se sont rajoutées les plantes aromatiques. Donc, les plantes aromatiques, pareil, j'ai fait des formations au sein de la chambre d'agriculture de la Drôme, en transformation, en réglementation. Enfin, tout ce qui était attrait aux plantes aromatiques. Mmh. Et là, Jean-Pierre, donc mon beau-père, un jour m'a dit « Ben, tiens, Bastien, je te laisse un bout de terrain. » Et ça a commencé comme ça.
Pour tester.
Pour
au
tester.
Au départ, voilà, en disant « Bon, je vais voir ce que je peux faire sur ce terrain à Bourg-les-Valences, dans les conditions climatiques aussi, etc. » Est-ce qu'il y a eu un choix on en parlera peut-être un peu après, mais le choix des plantes, en tous les cas, que tu as fait, que tu proposes aujourd'hui, il a été fait vraiment en fonction de la situation géographique et de la terre, ou en te disant « Non, j'ai envie de travailler telle ou telle plante ».
Non, c'était surtout une envie, parce que, en fait, quand on fait les marchés, on voit beaucoup de gens qui ont de la ciboulette, du thym, du romarin, et c'est là, c'est que j'avais pas envie de faire comme tout le monde. Donc, je les ai, ces plantes, mais j'ai des variétés vraiment différentes, comme du romarin breton, donc qui n'est pas destiné à venir en Drôme, mais ça pousse très bien. Donc, voilà, on en parlera tout à l'heure, mais vraiment, ça a été un choix qui a été fait de ne pas faire comme tout le monde, parce que sinon, c'est trop facile.
Alors, comment... C'est quand même un grand écart, effectivement, entre le métier de chariste et puis se retrouver dans les champs et à travailler la terre, à travailler les plantes. Est-ce que avant, quand t'étais môme, c'était quelque chose qui te parlait, ça, ou la terre, ou pas du tout?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
non, du tout. Moi, je voyais une belle carrière professionnelle, plein d'argent, etc. Et là, au jour d'aujourd'hui, c'est... une belle carrière professionnel tout de même, pas forcément plein d'argent, mais un chouette travail, un chouette travail, un environnement qui est hyper agréable, donc et pas toutes ces contraintes de l'usine avec le bruit, etc.
Ouais, et puis une qualité de vie qui est quand même si c'est énormément de travail, il y a une vraie qualité de vie.
C'est ça, c'est ça.
Et toi, tu es bourguin ?
Je suis, alors, à la base, je suis romanais.
Oui. Oh, et... non, mais bon, alors, tu n'as pas ça.
Non, non, je suis romanais, mais je suis venu sur Bourg, tout simplement.
L'amour fait faire des choses incroyables, parfois.
Ouais.
Trêve de plaisanterie. Quand tu as commencé, c'est intéressant de voir que tout est possible. On peut partir, partir dans un métier X et puis finalement se dire non, j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de tester d'autres choses. C'est facile quand on est, parce que là tu étais adulte confirmé, on va dire, t'étais pas un gamin quand tu as changé d'orientation. Ça a été facile de trouver des formations?
Oui, oui, et c'est vrai qu'au niveau de la Chambre d'agriculture de la Drôme, dont je dépends forcément, ils sont vraiment tous là pour nous soutenir, pour nous appuyer. Les conseils sont là, les personnes sont hyper sympathiques. Donc, il n'y a eu strictement aucun mal, justement, à me lancer dans ma reconversion professionnelle, parce que tout le monde était là pour nous aider, quoi.
Donc, il suffit d'aller taper à la porte de la chambre d'agriculture, c'est ça ?
C'est ça.
Et on se renseigne quand même un petit peu avant sur les orientations qu'on a envie de prendre.
Oui, oui, parce qu'au niveau des plantes aromatiques, donc moi, je fais de la plante fraîche, je fais de la transformation, mais c'est vrai qu'en fait, le choix, il est quasiment infini, parce qu'on peut faire tout simplement des condiments, on peut faire des huiles de massage, enfin, rentrer dans de la cosmétique. Les plantes, c'est à l'infini.
Alors, cette reconversion, bon voilà, j'ai en face de moi un homme qui a l'air d'être parfaitement heureux, qu'on soit très très clair. Donc, comme quoi les reconversions, ça a du bon. Tu fais partie du circuit de la Drôme de Ferme en Ferme.
Oui.
C'est la première année ou ça fait plusieurs années que tu le
fais ? C'est la première.
C'est la première année. Bon, tu choisis bien ton année.
Ouais, 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 c'est un peu galère, mais bon, ça va se faire.
Quand on se lance comme ça dans cette aventure, tu étais seule ou tu étais, tu as parlé de ta belle-mère, de tes beaux-parents. Est-ce que tu étais accompagnée justement ? Est-ce que tu pouvais t'adosser sur quelqu'un ou tu étais vraiment tout seul à travailler les herbes notamment, enfin les plantes ?
Ah non, pour travailler les plantes, de toute façon, j'ai toujours été tout seul. J'ai toujours ma femme forcément qui me donne un coup de main. Mais pour travailler en soi, la terre, c'est uniquement moi. Tout ce qui est transformation également, c'est uniquement moi. Ma femme, c'est plus la partie comptable et publicitaire. Et voilà, et après, par contre, pour de ferme en ferme, là, c'est vrai que là, c'est vraiment tout le monde, c'est la famille, donc ma femme, ma belle-mère. Voilà, ça, c'est tout le monde qui met la contribution.
Alors ces plantes, parce qu'on a les narines qui frémissent là quand même depuis le début de l'émission, on parle de plantes aromatiques, on a très envie de mettre le nez dedans. Quelles sont les plantes aromatiques qu'on trouve ? Donc tu nous as parlé du romarin breton, je ne savais pas que ça existait. Quelle est la différence d'ailleurs avec le romarin traditionnel ?
Alors moi j'ai tendance à dire que le romarin breton, donc c'est le romarin de la pointe du Raz. Et donc j'ai tendance à dire qu'il est beaucoup plus aromatisé que le romarin officinal, donc le traditionnel qu'on cuisine tout le temps. Et il a aussi un gros avantage, c'est que les aiguilles du romarin breton, elles ont tendance à fondre en cuisine. Donc on ne se retrouve pas avec une aiguille au travers de la gorge.
Ouais.
Ah ouais, ça c'est sympa.
Et en termes de résistance de la plante elle-même, là, en termes de culture,
c'est pareil. C'est une plante qui est là pour des années. Donc, voilà, donc moi, sur le champ, je suis vraiment parti sur des variétés pérennes. Mm-hmm. Donc, c'est des plantes qui sont là pour X temps.
Alors, donc, outre ce romarin breton amusant, qu'est-ce que tu cultives d'autre ?
Plein de choses. Non. Alors. Donc, en fait, pour la petite histoire, je vais essayer de faire court. Globalement, j'ai à peu près une quarantaine de variétés de plantes. Mm-hmm. Donc, la parcelle n'est pas énorme. Il y a 2500 m² de plantes aromatiques. mais 2500 mètres carrés sur 40 variétés de plantes. Donc c'est vachement condensé. Et donc du coup, pour la petite histoire, c'est tout simplement, j'ai fait une étude de consommation auprès des amis et de la famille, et c'était toujours pareil, le thym, le romarin, le basilic, donc vraiment les standards. Mmh. Et en fait, j'ai passé ma commande chez mon pépiniériste, donc à Romantique, pour faire un petit peu de pub.
Oui, et puis c'est bien.
Ouais, un très très bon pépiniériste. Ouais. Et en fait, j'ai récupéré ma commande, et j'ai eu le malheur de faire le tour de ces serres, de ces pépinières.
Ah, terrible.
Et voilà, et là, c'était pas possible. Et donc, j'ai fait le tour, j'ai senti les plantes, j'en ai goûté. Et finalement, bah, j'ai dit, bah, je prends ça. Et voilà, donc je suis parti vraiment sur des variétés bizarres, que je savais pas forcément quoi faire à la base avec, mais finalement, après que je suis arrivé à transformer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que toutes les plantes, on peut tout faire. Mm-hmm. Même s'il y a une plante qu'on, a priori, on ne sait pas ce qu'on va faire avec, un jour ou l'autre, il va y avoir un déclic, mm-hmm. et on va se dire, bah, cette plante toute seule, ça ne va pas, mais si je la mélange avec une autre, ça peut aller, enfin... Il y a plein de choses comme ça.
Alors, par exemple, un coup de cœur comme ça, un des coups de cœur que tu as eu dans cette pépinière où tu te dis, oh ben ça, non, mais ça, c'est trop, c'est incroyable, je veux absolument tester la culture.
La sauge ananas. Alors, la sauge ananas, en fait, à la base...
C'est du bonheur.
Ouais, c'est du bonheur. C'est une plante ornementale qui monte assez haut, je crois, elle monte jusqu'à 3-4 mètres, il me semble. Donc moi, forcément, je la taille à ma hauteur, parce que bon, je fais pas 3 mètres. Et donc, chez ce fameux pépiniériste, j'ai goûté la fleur, et franchement, je suis tombé amoureux de cette fleur. Sauf qu'en fait, une fois que je l'ai mise en culture sur ma parcelle, ben en fait, je savais plus quoi en faire. Je ne savais plus quoi en faire, parce que j'ai essayé de faire des transformations, des sirops avec la feuille, et c'était pas bon.
Ça marche pas.
C'était amer, c'était pas génial. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé la bonne transformation, la bonne recette avec la fleur de soja ananas, justement, qui donne un petit arrière-goût d'ananas. Uh-huh. Et ça, je le transforme en sirop ou en confit. Donc le confit, c'est de la gelée, tout simplement, et pour agrémenter sur du foie gras. Mmh. Donc juste badigeonner de la soja ananas sur du foie gras ou dans une salade de fruits, enfin, voilà, ça, c'est vraiment un produit d'exception.
Super. Alors, on est vraiment là dans le vif du sujet et on a les papilles qui commencent à frétiller. C'est toujours à cette heure-là, là, c'est terrible de parler de gourmandise. Est-ce que tu t'es rapproché de cuisinier quand tu as commencé justement à tester en te disant bon, est-ce que tu t'es rapproché de cuisinier pour te renseigner un petit peu de eux ce qu'ils auraient. Quelle idée ils auraient par rapport à ces plantes?
Oui, bien sûr. C'est vrai que... Alors, le parcours, il a été un petit peu compliqué. C'est-à-dire, c'est que, n'étant pas issu du milieu agricole, je ne connaissais pas les plantes. Donc, j'ai passé une année à apprendre comment tailler les plantes, une deuxième à connaître toutes les propriétés des plantes, donc les propriétés médicinales, même si on n'a pas le droit de le dire forcément. Et la troisième année, faire la transformation des plantes. Donc la transformation en sirop, en infusion, etc. Mmh. Et donc tout ça, c'est pas ces trois années qui ont été perdues, mais ces trois années de... Comment dire ?
De maturation.
De maturation. Et je ne pouvais pas partir des marchés des restaurateurs bien sans fait. Connaître mon produit à 100%.
J'entends.
Donc voilà.
Alors là, moi, je parlais plus de la démarche inverse. Après, il y a ta clientèle, effectivement. Mais c'est de dire, tiens, je me retrouve avec cette sauge ananas, je ne sais pas quoi faire. Peut-être contacter un cuisinier, effectivement, ou une cuisinière qui... Est-ce que vous utilisez ce type de plantes et comment et etc.
Si, ben oui. Je suis allé les voir, je leur ai posé des questions. Après, sachant que maintenant, il y a quand même beaucoup de restaurateurs qui cultivent leurs propres plantes. Mmh. Donc, je ne vais pas dire malheureusement pour moi, mais c'est tant mieux. Mmh. C'est tant mieux. Donc, c'est toujours un petit peu délicat. Et c'est vrai que cuisiner, par exemple, avec un sirop de thym... Ils ne le font pas forcément. Mmh. Ils ne le font pas forcément parce qu'ils ne connaissent pas. Mmh. Quand on voit à la télé, par exemple, des émissions culinaires où ils mettent du miel, moi, je me dis, ils devraient mettre du sirop à la place. Voilà. Donc, ils ne connaissent pas forcément mes produits. Et en plus, là, cette année, avec l'histoire du Covid, ça a été très, très compliqué.
Oui,
donc voilà. Mais après, quand je vais voir des restaurateurs, je leur pose des questions, je m'intéresse à leur travail, forcément. Et j'hésite pas à leur demander si eux, ils veulent que je leur mette des produits en culture. Après, si la personne a vu de la fleur, parce que je fais aussi de la fleur, donc du bleuet, du calendula, enfin, etc. Et ça, j'hésite pas justement à demander au restaurateur si jamais il veut de la fleur pour embellir ses plats. S'il veut une plante de la menthe citronnée ou menthe fraise, c'est des produits que je serais capable de leur mettre en culture.
D'accord. Oui, c'est vraiment quand même, il y a un vrai travail aussi de collaboration, parce que finalement, toute cette chaîne, c'est bien si on arrive à travailler ensemble.
C'est ça.
Tu es en bio.
Ah, tout à fait.
Voilà, tout ce qui pousse aux arômes de genâtre, c'est en bio.
Je dirais que c'est au-delà du bio. En fait, je suis en total enherbage. En
D'accord.
fait, donc je suis certifié bio par Ecocert, donc l'organisme certificateur. Mais en fait, je travaille tout en biodiversité, en enherbage. Donc, il y a de l'herbe haute au milieu du basilic, au milieu de la ciboulette. Et ça n'a pas d'influence majeure sur la pousse des plantes. Mais ce qui est vachement bien, c'est que au lieu d'arroser tous les jours, j'arrose tous les 3 jours. L'herbe retient l'humidité, donc je trouve que c'est pas plus mal. C'est compliqué quand on veut tailler de la ciboulette. Bah après, par exemple, faut
Oui,
trier
faut
les mauvaises,
nettoyer, voilà.
faut tout nettoyer. Mais c'est mon travail, je le fais comme ça, hein, et j'estime que mon produit est de qualité. Et de toute façon, j'imagine pas la culture de mes plantes, enfin, du moins travailler la terre d'une autre façon.
Quand on respecte la terre, elle nous le rend. On pourrait dire ça comme ça. Il y a du tilleul chez toi?
Oui.
Oui, il y a du tilleul. Alors, je te propose une pause musicale. C'est Clarica qui reprend une chanson d'Alain Leprest. C'était sur un album d'hommage à Leprest. Ça s'appelle Les Tilleuls, tout de suite dans vos oreilles.
D'un café, on en touille un autre. Le temps passe de cafetière en cafetière. Marin affamé, on ronge la côte. On mange la soucoupe et la petite cuillère. La petite écuillère d'ailleurs viendra pas. C'est con de s'y faire, attendre c'est beau. L'horloge s'en fout, elle est déjà là. L'attente connaît jamais le repos. Ça te bat le cœur, te tient en éveil. Patron de mon spleen, remous du café. Ce soir j'ai dû trop sucrer ma cervelle. Le jour tombe vite, l'horloge s'y fait. J'attendrai l'express de Bordeaux. Vers 15 expresso, café des tilleuls. Un dossier d'osier tressé dans mon dos, et sur les genoux, un pot de glaïeul. J'attendrai ton train en croquant des nems, le temps qu'il faudra sous la Montparnasse. Si tu le prends pas, j'attendrai quand même, en m'attant le dos des filles qui passent. Rien ne me sera bien insupportable. J'attendrai 20 ans, regarde en mourir 10 générations, moineaux sous ma table. Et mon pot de fleurs 20 fois refleurir. Plus les siècles passent, plus on se résigne à sentir sa chaise pousser dans ses reins. Peut-être mon corps aura pris racine quand me parviendra la chanson d'un train. Je n'aurais pas vu crever les secondes. Je serai tilleul sous la Montparnasse, souriant de voir blottie sous mon ombre mes feuilles chutant au fond de ta tasse.
Les Tilleuls, c'était Clarica sur un texte d'Alain Leprest, un beau poète. Vous écoutez Radio BLV 93.6, vous êtes bien installé dans l'invité de 11 h et quelques. Et aujourd'hui, nous sommes avec Bastien Marion des Arômes de Genasse. où on cultive des plantes aromatiques sur Bourg-les-Valence. Et c'est dans le cadre aussi de Ferme en Ferme, l'Ardèche et la Drôme de Ferme en Ferme, qui se déroulera donc exceptionnellement ce 26 et 27 septembre, ce week-end. Ça devait avoir lieu au printemps, ça a été reporté, et donc c'est ce week-end. N'hésitez pas à aller pousser la porte de nos producteurs et productrices. On a parlé un petit peu de différentes plantes. On va rester sur les plantes. On a parlé safran au départ. Oui. Et le safran, tu continues.
Ah oui, bien sûr.
Voilà,
tu
n'as pas abandonné en disant non, finalement, je reste.
Non, pas du tout.
Le safran, c'est particulier.
C'est particulier, oui, parce que c'est quand même la seule fleur au monde qui donne une épice. C'est d'où sa particularité.
Alors, c'est compliqué, la culture du safran.
Alors,
c'est délicat. Ça, le ramassage est délicat, enfin, la cueillette est délicate.
Voilà. Donc, en soi, non, c'est pas compliqué. C'est du temps. C'est du temps, tout simplement. En sachant que le safran, c'est une fleur qui sort donc chez moi à la ferme, deuxième semaine d'octobre, à peu près, et ça dure un mois. Mmh. Donc, un mois de safran sur une année entière, c'est pas grand-chose, en soi. Après, quand la fleur est là, c'est là où ça demande vraiment, vraiment beaucoup de temps. Donc, en fait, on n'a plus de vie. On mange safran, on vit safran, on dort safran. Globalement, la journée type, sur le safran, en fait, il y a trois étapes. Il y a la ramasse, l'émondage. Donc, l'émondage, c'est ce qui consiste à enlever le safran de la fleur. Mmh. Et il y a le séchage.
D'accord. Donc, on ramasse les fleurs.
Voilà.
Et après,
on ramasse, on émonde, et après, on fait sécher. Donc, à dire comme ça, ça a l'air simple, mais il faut savoir que pour 1 gramme de safran sec, il faut entre 180 et 200 fleurs.
C'est énorme.
Voilà. Donc,
l'eau de dingue.
Voilà, là, c'est du taf. Et ensuite, il y a l'émondage. Donc, pareil, si on veut parler de chiffres, une heure de ramasse équivaut à peu près à 3 heures d'émondage. Donc, quand le matin, on ramasse pendant 5 heures, on a 15 heures d'émondage l'après-midi, et il y a encore du séchage. Donc, c'est vrai que ce sont vraiment des journées très, très intenses.
Oui, et ramasser sur une très courte période, donc, et parce qu'il faut faire vite aussi derrière pour ne pas laisser perdre. Et, donc là, j'imagine que c'est tu as du renfort à ces moments-là.
Alors,
tu prends du renfort.
Alors, le renfort, tout simplement, c'est quand c'est la période du safran, quand c'est la première semaine, on voit la première fleur, on est hyper content. Mm-hmm. Quand c'est la dernière semaine, enfin, du moins la dernière fleur, j'appelle ma belle-mère parce que j'en peux plus. Donc voilà. Mais non, quand c'est vraiment le pic, vraiment le rush, en fait, tout simplement, c'est je fais un post Facebook. Mm-hmm. Et les gens qui veulent venir, que ce soit pour la ramasse, l'émondage, ou simplement pour discuter, mm-hmm. ou simplement venir avec une chaise et nous regarder travailler, ils peuvent.
D'accord. Bon.
Tout simplement. Et quand on fait l'émondage, nous, ce qui est vachement sympa, c'est qu'on se met dans un gîte et on passe une après-midi justement à émonder le safran. Et on se retrouve avec des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Et à la fin de la journée, ben, je ne vais pas dire qu'on est copains, mais c'est comme si.
Ouais, c'est une très belle idée, ça. Ouais. C'est réinventer les veillées, mais l'après-midi.
C'est ça.
Voilà, les veillées d'autrefois où on ébondait les noix, par exemple, etc. C'est une très, très, une très belle idée. Donc, guettez sur le Facebook des arômes de Genasse, ce moment-là. Je crois qu'il y a aussi, dans l'air du temps, du lavandin qui va se balader avec des envies d'alambic.
Voilà, alors faut les chercher parce que c'est très très enherbé, on voit pas le lavandin. Mais donc du coup, en fait, tout simplement, c'est que j'ai mis quatre plantes en culture, dont le lavandin, qui seront destinées justement aux huiles essentielles.
D'accord.
Donc en fait, le but étant d'acheter mon propre alambic, parce que forcément, je vais pas avoir une grosse quantité, et d'être en totale autonomie.
Oui, parce que sinon, il faut porter, une...
Ben après, il faut porter une distillerie. Donc, il y a des distilleries à Die, mais avec la matière que je vais leur amener, le rendement que je vais leur amener...
Pas d'intérêt.
Ça, pour eux, ça n'aura pas d'intérêt. Mmh. Donc, d'où la nécessité pour moi. Et pareil.
Et puis, on vit aussi. Parce
et pareil, voilà.
Vous ne le voyez pas, mais il a les yeux qui brillent.
Non, pareil, j'ai envie de distiller, j'ai envie de faire mon propre produit. Donc tout ça, ça va se faire au fur et à mesure du temps. Donc je ne sais pas quand je vais acheter l'alambic. peut-être l'année prochaine, peut-être en fin d'année, je ne sais pas du tout. Donc, par contre, d'être gelé, ben, retour en formation avec la Chambre d'agriculture sur des formations sur les alambics, etc. Enfin, du moins sur la distillerie. Et après, ben, je lance mes huiles.
Puisqu'on parle de, voilà, on parle d'huile essentielle, on parle de transformation, alors à plusieurs reprises, vous avez entendu sirop, etc. Quels sont les différents types de transformation que tu fais sur la ferme?
Alors déjà, la plus simple, ça va être les sachets d'infusion, donc de la plante séchée pour les infusions. Il va y avoir les sirops. Donc les sirops, pareil, on s'en sert, mais de plein de façons différentes. Ce ne sont pas que des sirops à boire, on peut également cuisiner avec. Donc globalement, de l'eau fraîche pour se désaltérer, de l'eau chaude, c'est fait directement une infusion. On vit dans un monde pressé. On sort du boulot, il faut vite faire à manger pour les enfants, etc. Et on n'a pas le temps de faire une infusion. Donc là, le sirop, juste de l'eau chaude du robinet, ça suffit. Également, si on prend le sirop de thym, par exemple, sur un rôti, en fin de cuisson, on met un petit peu de sirop de thym par-dessus ou du confit de thym, et ça caramélise, ça attendrit la viande. Donc voilà, donc les sirops ont vraiment différentes possibilités. Ensuite, il va y avoir du sel aromatisé, il va y avoir des pots d'aromates. Là, je vais travailler sur une gamme de vinaigre aromatisé, d'huile aromatisée, peut-être faire de la moutarde safranée. Donc voilà, il y a du safran également, du sirop de safran. Donc en fait, globalement, sur mes plantes, il y a à peu près 80% des plantes que je transforme.
Sur site. Et là, c'est pareil, tu transformes tout seul ou c'est une histoire de famille? Vous êtes.
Je fais tout seul.
Tout seul.
Non, comme un grand. Non, au niveau de la transfo, c'est que moi. Donc, en fait, tout simplement, c'est que dans le manoir, j'ai mon séchoir. Donc voilà. Par contre, tout ce qui est sirop, ça, je le transforme directement au labo qui se trouve chez moi.
D'accord. Alors, on a parlé transformation, parlons un peu de circuit de distribution, parce que c'est quand même, le nerf de la guerre est important aussi, je dis souvent, les artistes mangent et vivent, oui, ils ont besoin d'argent, mais les producteurs aussi, comment tu distribues tes produits?
On en a parlé tout à l'heure, les restos, donc au niveau de la restauration, épicerie fine, marché, vente à la ferme, donc voilà, on essaye vraiment d'écouler notre stock. Je ne vais pas dire ça, c'est pas joli. Mais on essaie vraiment de trouver un réseau au plus court, au plus court et au plus simple. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, en fait, il faut savoir tout faire. Il faut savoir démarcher, il faut savoir travailler la terre, il faut savoir transformer. En fait, il faut tout faire et on n'a que deux bras. Donc, c'est vrai qu'on essaie de vraiment faire au plus court.
Alors, par rapport, pour faire vraiment court, il y a un magasin à la ferme.
Oui, tout à fait, oui.
Et donc, c'est tous les mercredis de 9h à midi et de 15h à 18h. Vous pouvez venir directement à la ferme, vous procurer les produits et découvrir aussi. C'est l'avantage de ces circuits courts aussi, c'est de pouvoir prendre le temps de voir d'où ça vient, ce qu'on mange. C'est pas anodin, parce que quand on sait d'où les choses viennent, on les respecte plus aussi.
Tout à fait. Et ce que je trouve vachement sympa aussi, c'est que quand les personnes veulent de la plante fraîche, on va directement dans le champ, on prend la serpette ou le sécateur, on coupe le basilic, la ciboulette, etc. Et les gens, ils repartent vraiment avec le produit qui vient juste d'être ramassé, quoi. Donc on ne peut pas faire plus frais.
J'espère que vous avez dans les narines tous les parfums, là, parce que moi, je peux vous dire que ça, vraiment, ça frétille. Alors, propriété médicinale, effectivement, tu en as parlé. Il y a une grande polémique sur le sujet où on a interdit les herboristes, etc. C'est un drame, moi, je trouve.
Une aberration.
C'est un drame pour nous toutes et tous, et c'est une aberration. Il n'empêche qu'effectivement, on va appeler ça des remèdes de grand-mère, comme ça on est tranquille, mais les plantes ont aussi effectivement des propriétés et c'est intéressant d'aller creuser aussi un petit peu là-dedans. J'imagine que tu est-ce qu'il y a des des bouquins à la, au magasin où on peut peut-être trouver, ou est-ce que bon, à ce moment-là, chacun va chercher les bouquins qu'il a envie de chercher?
Non, actuellement, il n'y a pas de bouquins à la ferme, mais c'est une bonne idée. Je vais penser à en mettre.
On va faire du copyright. Allez, trêve de plaisanterie. Tu as parlé de manoir à un moment. Parce qu'effectivement, c'est un site très singulier que le site sur lequel tu es. Il y a donc les arômes de Genasse, il y a la ferme, la partie ferme, il y a la partie exploitation et culture de ces plantes. Et puis, il y a une partie gîte, tu en as parlé aussi dans ces après-midi et mondages, ces temps de partage magnifiques. C'est un site vraiment qui est exceptionnel sur Bourg-les-Valences, que personnellement j'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc comme quoi il suffit de parfois être un petit peu plus curieux que ce qu'on a l'habitude d'être, puisque c'est un Louis XI a dormi dans ce site.
Et ouais, Louis XI, vous imaginez? Ça date pas d'hier.
Et donc c'est un manoir qui a été restauré ou qui continue à être restauré, ouais. Parce que ces bêtes-là, ça ne se termine jamais. Et qui, il y a une jolie histoire sous cette histoire. On peut peut-être en dire deux mots de tes beaux-parents qui habitaient là, qui étaient locataires.
Voilà. Donc en fait, Sylviane et Jean-Pierre, en fait, tout simplement, ils étaient locataires de ce manoir, donc ils vivaient au sein de la tour. Et il y a un beau jour, quand le propriétaire a eu envie de vendre ou a décidé de vendre, ben en fait, il voulait vendre qu'à mes beaux-parents. Donc un peu forcé. Donc mon beau-père est agriculteur, en céréalier, et qui exploitait toutes les terres alentour. Mmh. Et un peu forcé par les choses, ben ils ont décidé. Je pense qu'ils ont bien réfléchi quand même avant, parce que bon, c'est pas anodin. Mais du coup, ils ont racheté ce fameux manoir. Et depuis, ben, comme tu l'as dit, c'est en restauration. Il y a des gîtes. Et donc, pour la petite histoire, c'est en fait, ma belle-mère était arboricultrice. Et donc, elle avait des abricotiers. Et quand il y a eu la charca, ben, en fait, elle a été obligée de tout arracher. Et il y a eu une prime pour la reconversion. Et du coup, ben, le premier gîte est né comme ça. C'est qu'en fait, le premier gîte, à la base, c'était l'étable. Et en fait, c'est devenu ce fameux premier gîte. De là, toute la rentrée d'argent du premier gîte a servi à construire le deuxième. De là, on a fait le troisième, et ainsi de suite. Et c'est reparti aussi. En fait, tout l'argent, à chaque fois, est réinjecté pour les travaux du manoir.
Et réinvesti, tout ça. Pour faire évoluer le site dans son entier, d'ailleurs.
C'est ça.
Alors, félicitations quand même, parce que vous avez reçu un prix, fait partie de l'appel à projet. Peut-être tu peux nous en dire deux mots. Sylviane n'est pas là, donc...
Non. Alors, en fait, c'était un appel à projet qui était fait avec Mimosa. En fait, c'est un appel à projet sur l'agritourisme. Donc, ça a été fait via Mimosa, donc qui est... c'est un truc participatif au final, et de là il y avait aussi Airbnb et la Chambre d'agriculture France, et en fait on a été lauréat donc cette année, et il y avait 174 appels à projets. Sur les 174, il y en a que 10 qui ont été retenus, et nous on a été lauréat sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà.
Bravo, donc bravo, félicitations, et puis bah du coup ça vaut vraiment le coup. Enfin, je vous conseille vraiment d'aller découvrir le site. Tu fais partie de Ferme en Ferme. C'est la première fois que tu participes à De Ferme en Ferme cette année. Alors bon, c'est vraiment, bravo d'autant plus. Moi, je dirais non, mais bravo deux fois plus, parce que cette année c'est vraiment très compliqué. Donc démarrer cet événement, la participation à cet événement dans ces conditions, c'est pas facile. D'habitude déjà, ça demande beaucoup de travail pour les exploitants et exploitantes, beaucoup d'investissement sur ces deux jours. Et même si c'est avec plaisir, etc., il n'empêche qu'il faut quand même vous saluer ce travail supplémentaire que ça vous demande pour nous accueillir. Et cette année, il y a en plus le protocole sanitaire à respecter. Alors, comment ça va se passer pendant ces deux jours, les visites?
Déjà, il va y avoir. Alors, déjà, au niveau du protocole sanitaire, masque obligatoire pour tout le monde, que ce soit aussi bien les bénévoles, le producteur, enfin moi, ou les gens, les personnes qui viennent visiter. Ça sera obligatoire, avec du gel à disposition, etc. Il va y avoir un sens de visite, forcément, pour éviter de se croiser. Et malheureusement, ce qu'on met en place, des portes ouvertes, j'en fais assez régulièrement à la ferme. Et je fais des petits jeux sensoriels, des animations sensorielles au niveau des plantes. Donc, on touche la plante, etc. Et là, malheureusement, cette année, on pourra pas le faire. Donc c'est vraiment c'est la contrainte majeure. Mais sinon, il y aura toujours la dégustation de sirop. Voilà, donc il y aura toujours des choses. Et il va y avoir beaucoup d'explications aussi sur le manoir, en forme de diaporama ou de vidéo. Je ne sais pas exactement comment ma femme elle a managé tout ça, mais il y aura plein de choses, plein d'animations justement sur la ferme.
Alors voilà, c'est samedi et dimanche. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure?
C'est de 9h à 18h.
De 9h à 18h. On a accueilli Julie Annès hier, qui transmet aussi qui te transmet son salut.
Ouais, et qui fait de très très bons savons.
Oui, absolument. On a pu tester avec Karina depuis hier et vraiment 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 chouette. En tous les cas, n'hésitez pas à aller découvrir ces sites. Particulièrement sur les arômes de Genasse, vous pourrez voir l'ensemble du site en plus. Vous pourrez découvrir cet endroit. Vous pourrez aussi repartir avec du sirop, des herbes séchées, des herbes fraîches aussi.
Alors, les herbes fraîches, pas spécialement, parce que s'il y a beaucoup de monde,
ça va être très
on n'aura pas le temps. Non, mais après, faut repasser à la ferme un autre jour et ça va être plaisir.
Mais ça vous permet de découvrir le site et de repasser une fois suivante. Merci beaucoup, Bastien, d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
Bravo de ce beau parcours. Et puis, bravo, du coup, à toute la famille par rapport à cet appel à projet. On est toujours contents quand des gens qui se donnent la peine de faire des choses sont un petit peu de retour, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et surtout quand ils font les choses dans de belles manières, on va dire.
Merci.
Donc bravo et puis longue vie aux arômes de Genasse.
Merci bien, merci.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
On va continuer à faire des selfies dans le studio, qu'est-ce que t'en penses?
Bien, merci énormément. Vive la France libre.
Une révolution humaine.
L'invité de 11h et quelques.